devrait penser à l'université. Bienvenue dans le podcast dédié aux chercheuses et chercheurs invités de la chaire UNESCO en communication internationale. Depuis 1996, au sein de l'université Stendhal d'abord, puis de l'université Grenoble-Alpes, le laboratoire GRESEC, groupe de recherche sur les enjeux de la communication, héberge une chaire UNESCO. L'accueil annuel de chercheuses et chercheurs invités est l'une des activités de cette chaire UNESCO en communication. Ainsi, ce sont 25 scientifiques provenant de 16 pays différents que le laboratoire en sciences de l'information et de la communication a reçu et accueilli depuis 1997. Ce podcast propose de découvrir le contexte de travail de ces chercheuses et chercheurs dans leurs pays respectifs. À quoi ressemble la vie universitaire dans leur pays? Quelles formes sont données aux cours? Comment se déploie la formation à la recherche et aux métiers qui en découlent? Ces éléments nous invitent au voyage universitaire à l'international et à la mise en perspective de nos propres vécus de l'université en France et à l'université Grenoble-Alpes. Je suis Chloé Salles, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication au sein du département journalisme et du laboratoire GRESEC et actuelle responsable de la chaire UNESCO en communication internationale. Pour ce premier épisode, nous vous invitons à rencontrer Évariste Dacouré, maître de conférences CAMES. Le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Évariste Dacouré est spécialisé en communication sociale et vice-recteur à l'université Aube Nouvelle de Ouagadougou, au Burkina Faso. Bonjour Évariste.
Bonjour Chloé.
Évariste, première question. Quelle formation as-tu suivie et quel étudiant as-tu été?
Alors, merci Chloé. Après mon bac, j'étais prédestiné à une formation vers les sciences exactes en biologie et géologie. C'est dans une faculté justement de sciences exactes que j'ai été orienté. Et bon, je n'avais pas vraiment en ce moment beaucoup d'informations sur les perspectives de carrière que ça offrait. En ce moment, on se disait que quand on faisait cette fac, on sortirait soit professeur de biologie, sciences de la vie et de la terre, ou ingénieur agronome. Et ni l'un ni l'autre ne m'intéressait vraiment en termes de carrière. Alors du coup, j'ai fait un test de recrutement pour un département de communication qui recrutait chaque année 25 à 30 étudiants. Et après un mois de cours en biologie, j'ai été admis à ce concours et j'ai rejoint le département en question. Alors, en tant qu'étudiant, je dirais que je suis un étudiant de nature studieux, un peu casanier quand j'étudie. J'ai passé beaucoup de temps dans les bibliothèques, aussi bien au Burkina Faso qu'ici en France, quand je suis arrivé pour mon master. Et au Burkina Faso, on faisait d'abord un tronc commun de 2 ans qui nous donnait lieu à un diplôme de journalisme pour tout le monde. Ça s'appelait le DEUG en son temps, diplôme d'études universitaires générales. Et après cela, en troisième année, chacun prenait une option, soit en journalisme, pour continuer dans cette filière, ou en communication des organisations, ou en communication sociale, qui traitera par la suite d'interventions sociales, de campagnes de sensibilisation. Et j'ai toujours été marqué par ce qu'il y avait en matière d'aspects sociaux, et donc du coup, je me suis orienté vers cette discipline. Et après ma maîtrise, en 2005, j'ai candidaté à Grenoble, pour faire un master et avec des ambitions de poursuivre. Bon, voilà à ce stade où peut-être on aura l'occasion de revenir sur le parcours au niveau de Grenoble.
Merci Évariste. Et comment en es-tu venu à considérer une carrière dans l'enseignement supérieur et la recherche au cours de ces formations et quel a été ton parcours pour y parvenir?
Alors, comme je disais tantôt, j'ai fait une maîtrise en communication sociale et quand je suis arrivé en France, je suis arrivé avec une bourse de second cycle, c'est comme ça que ça s'appelait, pour faire directement un master 2. recherche en sciences de l'information et de la communication. Alors, qui dit master de recherche, dit quelqu'un qui a des ambitions de continuer par la suite à faire de la recherche. Sinon, c'était peut-être mieux de faire un master professionnel et de tout de suite s'orienter vers une carrière, justement, dans le monde de l'emploi. Et par ailleurs, la bourse dont j'avais été bénéficiaire était par cycle. C'est-à-dire, quand on a une bourse de premier cycle, ça fait master, licence 1, 2, 3. Et ensuite, quand c'est second cycle, master 1 et 2. Et à chaque cycle, on recandidatait. Et donc, on m'avait dit que si l'année était concluante et que j'ai des ambitions de poursuivre en thèse et que je travaille sur une thématique qui intéresse le Burkina Faso, puisque je quitte le pays avec une bourse du Burkina Faso, donc il faut travailler sur les thématiques sur lesquelles le pays pense que ça perd d'un apport. À ces conditions-là, je pourrais renouveler ma bourse. Alors, il faut dire que le master s'est bien passé. J'avais travaillé sur la promotion de dispositifs techniques au Burkina Faso. En gros, c'est le rôle de l'État burkinabé pour promouvoir des outils de communication comme Internet, l'accès à la téléphonie mobile et autres. Là, on parle du début pratiquement des années 2000, on était en 2005. Et à l'issue de cela, l'année s'est bien passée et donc j'ai eu la possibilité de renouveler ma bourse et je l'ai renouvelée avec une bourse cette fois-ci pour une thèse. Et pendant la thèse, j'ai fait 2 ans, je ne travaillais pas. Comme je disais tantôt, je suis de nature studieux et casanier. Donc mes 2 premières années, je me suis vraiment consacré à mes travaux de lecture, de doctorat, comme on le dit. Et à un moment donné, des amis m'ont suggéré d'intervenir sur le plan associatif, d'apporter mon appui, par exemple, aider les élèves, les étudiants. Et ça reste dans mes ambitions d'avoir une carrière d'enseignant. C'est comme ça qu'après 2 ans, j'ai été bénévole dans une maison des jeunes et de la culture pour aider les élèves dans l'encadrement et autres. Et quelques temps après, une camarade doctorante qui avait eu des perspectives ailleurs me proposait de reprendre, on était en décembre 2009 si je ne me trompe pas, de reprendre des cours qu'elle donnait dans un établissement d'enseignement supérieur privé. Là c'était une nouvelle parce que c'était une occasion qui m'était donnée de commencer à avoir de l'expérience et en tout cas toucher du doigt comment se fait une pédagogie à l'université, quel est l'enseignement qui y fait, même si là, c'était une école supérieure. Et donc, je l'ai fait pendant 6 mois pour finir l'année. Et pendant ce temps, chemin faisant, et comme je disais, je suis très studieux et souvent, on dit que les doctorants ne se déplacent pas beaucoup dans les labos, les équipes de recherche, les locaux réservés au niveau des écoles doctorales. Moi, c'était un peu le contraire. J'étais pratiquement tout le temps là-bas. Et j'avais un camarade doctorant qui partageait les bureaux et qui m'a parlé des campagnes de recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche, qui sont des postes donnés à des doctorants de fin de cycle et pour leur donner la chance d'avoir une expérience d'enseignement de sorte à ce qu'une fois qu'ils seront diplômés, s'ils veulent candidater sur des postes d'enseignants-chercheurs en tant que maître de conférence, qu'ils le fassent avec au moins un minimum d'expérience. J'étais un peu sceptique en ce moment, mais il m'a convaincu que j'aurais ma chance. Alors donc, nous avons candidaté en différents endroits et nous avons tous les deux été retenus sur le site de Grenoble, à l'UIT2, qui relevait en son temps de l'université Pierre Mendès France. On n'était pas encore dans le regroupement des universités. C'était pour la rentrée 2009-2010. Et donc, cette année, on a fait une belle année et en fin de thèse. Et nos soutenants s'approchaient. Et ça fait que mon camarade, lui, sa soutenance était prévue pour décembre 2010 et il avait la possibilité de renouveler. Moi, c'était plutôt janvier ou février 2011. Et donc, nous avons recandidaté. Et cette fois-ci, à l'UIT, il préférait avoir un atelier à temps plein, puisque nous étions à mi-temps et ça avantageait l'UIT d'avoir une seule personne. Et c'est dans ce sens que mon collègue a été pris à Stendhal, l'université Stendhal, à l'Institut de la communication, et moi je suis resté à l'UIT. Et voilà comment le goût de l'enseignement et de la recherche, bien sûr, est monté en moi. Et parallèlement à cela, j'étais en fin de cycle et puis j'avais des collègues au Burkina Faso, à l'université de Ouagadougou, comme ça s'appelait, puisqu'il y avait une seule université, qui me disaient, bon, à la fin, c'est bien de rentrer parce que, en tout cas, on a des besoins. Et en même temps, j'avais fait beaucoup de rencontres d'autres Africains et pas Africains sur Grenoble et qui étaient en train d'aller au Canada et qui me vendaient aussi très bien la destination Canada, notamment des universités comme l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, ou l'Université de Montréal, l'UDM, ou l'Université Laval dans la ville de Québec, et que bon, c'est un environnement assez multiculturel et ils prennent des gens d'un peu partout. Et donc, bon, voilà, j'étais dans cet environnement-là où j'avais quand même pas mal de choix. Et ça fait que, à partir de 2009, j'avais suivi un peu la tendance de ce que les amis proposaient pour participer à un programme d'immigration choisi du Canada en tant que résident permanent. Et cela s'expliquait aussi par le contexte de l'époque en France, parce qu'on était dans un contexte où les autorités françaises étaient dans une politique d'immigration choisie, où il y avait des réformes en termes d'accueil des étudiants étrangers et des étudiants en fin de cycle. Et donc, bon, j'étais dans une situation où je me disais, bon, c'est peut-être bien d'avoir une autre perspective au cas où je ne reste pas en France, que j'ai la possibilité, voilà, d'aller ailleurs. J'ai dit cela parce que ça a fait un fil conducteur, parce qu'à un moment donné, il a fallu se décider. Toujours est-il que j'ai soutenu ma thèse en mars 2011 et je continuais avec mon poste d'atelière jusqu'à la fin de l'année universitaire. Et bon, par la suite, il y a eu un épisode pour le Canada, mais peut-être que vous aviez une relance là-dessus. Je ne vais pas dévancer, comme on dit, l'iguane dans l'eau.
Donc, tu nous as expliqué finalement que tu as d'abord, réorienté ton parcours des sciences dures vers les sciences humaines et sociales et la communication sociale. Puis, tu as commencé un cheminement aussi à l'international en allant du Burkina Faso en France, et puis tu te tournes vers le Canada. Est-ce que le Canada a été justement le pays au sein duquel tu as pu atteindre ton objectif de t'insérer professionnellement dans l'enseignement supérieur et la recherche?
Très bien. Merci, Chloé. Alors, donc je suis arrivé au Canada en octobre 2011. On m'avait vendu la destination en disant qu'il y avait bien du boulot. Et effectivement, une fois sur place, ça n'a pas traîné. Hein. Je crois qu'en 2 semaines, j'avais trouvé quelque chose à faire s'il s'agit de vivre décemment. Et donc, j'avais trouvé un poste de télémarketeur. Donc, je vendais des abonnements au journal de Montréal. Bon, comme quoi, je suis resté dans l'univers de l'information et de la communication. Mais bon, cette fois-ci, en fait, c'était des postes assez ouverts pour les migrants qui venaient et qui passaient par là pour se positionner, découvrir davantage l'environnement montréalais et bon, avoir des revenus aussi, parce qu'on en vient avec des économies, mais il ne faut pas tout de suite les épuiser. Et donc, j'ai fait ça et parallèlement, en arrivant, j'avais un colloque à l'Université du Montréal, de Montréal à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, qui devait avoir lieu en fin octobre. Et donc, quelques jours après ma prise de fonction, j'ai dû aller communiquer à ce colloque. Et les responsables du centre d'appel étaient assez compréhensifs. Ils reçoivent beaucoup d'immigrants et je leur avais expliqué un peu mon parcours, mon niveau d'études, ce que j'étais venu chercher au Canada. Bon, ils étaient un peu tolérants. Et parallèlement à ce travail que je faisais, j'ai pas levé le pied de l'enseignement de la recherche. Et ça fait que j'ai postulé pour être maître de conférence. C'est-à-dire, j'ai fait la campagne des qualifs, comme on dit, qualification à maître de conférence. Et j'ai monté mon dossier que j'ai envoyé en France en décembre 2011. Les résultats sont sortis, je crois, en février 2012. Et j'étais passé maître de conférence. L'idée pour moi, c'était, j'avais quitté la France dans un environnement où, après la fin des études, la politique était plutôt d'inciter les étudiants diplômés à repartir chez eux ou ailleurs. Et je me suis dit, si j'ai un poste, peut-être que je reviendrai en France autrement. Et donc, c'est dans ce sens que j'avais fait les qualifs. Et aussi une façon de dire, je suis venu en France, je voulais être universitaire, et en tout cas, j'ai l'habilitation à le faire. Et qui sait, ça peut toujours compter sur un CV. Et ce travail de recherche, je le faisais toujours en étant télémarketeur. Et en février ou mars 2012, il y avait un colloque à Agadir où je devais aller participer. Et du reste, le labo où j'ai soutenu ma thèse à Grenoble m'a même soutenu dans le cadre de la participation à ce colloque à Agadir. Comme quoi, en tout cas, j'ai de bons souvenirs de mon passage à Grenoble et j'ai gardé de bons rapports à ce niveau. Et il fallait demander une autorisation pour aller au Maroc. Agadir, c'est au Maroc. Et je suis allé voir mes managers pour dire, si je pouvais avoir une semaine pour pouvoir... ils ont commencé à dire, c'est bien, on sait que tu es docteur en communication, tu aspires à être universitaire, mais là, nous, on veut du chiffre. Tu vends des abonnements, il faut qu'il y ait de la présence et à un moment donné, il va falloir vraiment que tu te décides. Ils m'ont donné l'autorisation. J'ai fait le colloque, j'ai pu réseauter. Et du reste, à partir de là-bas, à Agadir, je suis resté en bon terme jusqu'à aujourd'hui avec des gens que j'ai rencontrés qui venaient de France ou du Canada. Et de retour, comme je le disais, j'ai gardé un pied sur la recherche parce que en voulant être universitaire, m'écarter de loin ou pendant longtemps du domaine de l'enseignement et de la recherche, m'enfermerait dans un environnement où il serait difficile d'avoir de l'expérience ou des compétences à valoriser lors d'une campagne de recrutement. Et ça fait que je devais participer à l'ACFAS. L'ACFAS, c'est un congrès des chercheurs francophones au Canada. Et c'était toujours en 2012, et là c'est avril ou mai 2012. Vous imaginez, je venais de dire que mon manager m'avait dit pour Agadir, écoute, ton affaire de recherche, c'est compliqué. Et donc, c'était pas simple pour participer à l'ACFAS. Ils ont accepté, ils ont dit vraiment, c'est la dernière fois, mais on ne pourra pas te... Et donc, ça fait qu'après le congrès de l'ACFAS, je me suis dit, il faut peut-être que je trouve autre chose à faire. Parce qu'en restant dans l'univers du télémarketing, c'est bien, ça donne des revenus, mais si c'est pour être universitaire, je ne vois pas quelle est la lueur d'espoir qu'il y a. Et en échangeant avec quelques amis, quelques collègues, dont mon coloc, qui avait fait l'école d'urbanisme à Grenoble, et avec qui je me suis retrouvé en colocation à Montréal, il m'a parlé de, si tu veux faire de l'enseignement, le télémarketing, c'est un peu distant, mais tu peux faire des vacations dans des lycées, dans des écoles. Ça reste de l'enseignement. C'est moins prenant puisque tu ne seras pas engagé au quotidien. Et puis, parallèlement, tu peux faire ce que tu as à faire. Mais il se trouve qu'au Canada, pour enseigner, pas à l'université, mais dans les cycles inférieurs, il faut appartenir à un ordre. Et à Ottawa, il faut une formation pour des gens déjà qualifiés, qui ont des diplômes. Donc, une formation en 8 mois, pour pouvoir avoir un bachelor en enseignement. Alors, j'ai déménagé dans la zone d'Ottawa, je me suis installé à Gatineau, juste à côté du pont Alexandra Bridge, qui sépare Ottawa de Gatineau. Et j'ai fait cette formation, ça s'est bien passé. Et en avril-mai 2013, ben, j'ai eu mon diplôme et j'ai fait la demande d'adhésion à l'Ordre des anciens de l'Ontario, qui m'ont envoyé la carte. L'Université d'Ottawa a organisé un forum de carrière et ils nous ont tous invités à participer. Et en venant, j'ai eu un établissement francophone dans l'Ouest canadien, dans la province de Saskatchewan, à 3000 km de là où j'étais, mais qui s'intéressait à moi. Bon, ils m'ont dit, nous sommes vraiment dans un village. Et bon, on te laisse le temps de réfléchir. Si, parce que tu as vu ton parcours, tu viens d'Afrique, tu as vécu longtemps en France, tu es quand même très diplômé. Dans une semaine, tu nous confirmes si tu veux le poste ou pas. Alors là, j'étais dans un dilemme. Bon, déjà, je n'étais pas très fluent, comme ils disent, en anglais. Et là, dans cette zone, à part l'école, je devrais parler anglais, puisque voilà. Mais ça, ce n'était pas la question. Et je me suis dit, un village, il n'y a pas de bibliothèque municipale dans le coin. Il n'y a pas de bibliothèque universitaire. Bon, faire de la recherche, ce serait peut-être compliqué. Et ça faisait un an et demi, un peu moins de deux ans. Hein, presque deux ans que j'étais au Canada. Et des amis m'ont dit, écoute, c'est un boulot très bien payé. Bon. Peut-être que tu gagnerais à y aller et puis continuer à postuler, même si tu as du mal à faire de la recherche ailleurs, ici au Canada ou au Burkina Faso, puisque bon, je n'étais pas dans l'optique de rester à l'étranger pour rester à l'étranger, puisque ma volonté est d'être universitaire et on peut le faire de partout à travers le monde. Ils m'ont dit, bon, étant résident permanent, tu as trois ans à faire au Canada pour prendre la citoyenneté canadienne. Quand tu auras cette citoyenneté, tu peux librement aller où tu veux et travailler où tu veux. Et en plus, la mobilité te sera plus facile avec un passeport canadien. Et donc, ce serait bien peut-être d'y aller, de consacrer un an ou deux, le temps de prendre la citoyenneté, de faire des économies et puis bon, de faire ton chemin. Bon, donc du coup, j'ai accepté le poste. Et ben, je me suis retrouvé à faire 1000 km par jour avec ma voiture, à traverser la Transcanadienne en trois jours pour rejoindre nuitamment le village en question. Je suis arrivé le soir, mais avant d'arriver, ça c'est vraiment une anecdote, quand on parle des plaines, j'ai dit souvent que c'est pendant ce voyage que j'ai découvert c'est quoi l'horizon. Parce que tu prends une plaine et tu vois sur des kilomètres, tu ne vois rien, c'est tout plat. Et par moments, c'est que du blé, parce que la Saskatchewan, ben, c'est le grenier à blé du Canada. Du blé, des silos, des grands silos, du blé. Bon. Et la nuit, j'arrive, le GPS me dit, vous êtes arrivé. Bon, je rentre. On avait réservé l'appart, donc je prends mes clés et le lendemain matin, je rejoins l'école. Alors, le lendemain matin, je dis, mais c'est vraiment petit, hein, le village. Bon, du coup, je crois que je n'ai pas tenu trop longtemps parce que je me suis dit, alors là, c'est vraiment, il faut oublier, hein, ce n'est pas d'ici que voilà, je pourrais être universitaire. Alors donc, j'ai décidé de retourner à Gatineau et de faire des vacations uniquement à partir d'Ottawa et chercher vraiment, me donner du temps. J'avais déjà fait deux ans et il m'est resté encore une année pour prendre mon passeport. Et donc, et en même temps, quand je suis revenu vers Gatineau, je suis rentré au Burkina pour voir la famille et prospecter. Parce que c'est vrai qu'il y a deux ans, avant deux ans et demi, on m'avait dit de venir parce qu'il y avait des besoins, mais le temps était passé. Et donc, dans l'université de Ouagadougou, il n'y avait pas de place en ce moment. Ils avaient déjà pris du monde. Je suis allé dans une autre université, à Koudougou. Et là, on m'a reçu vraiment avec enthousiasme. Ils n'avaient pas de département de com, mais ils avaient la communication enseignée de manière transversale, notamment à l'école normale, supérieure et d'autres endroits. Et on m'a dit, bon, déposez votre dossier, on verra la rentrée prochaine. Et je crois qu'il était mars ou avril. Et je m'apprêtais à rentrer quand des amis qui ont fait Grenoble avec moi, un est chercheur dans un centre de recherche national et l'autre est à l'université justement, public, il m'a dit, écoute, il faut aller à l'université Aube Nouvelle Ben, je ne connaissais pas l'université Aube Nouvelle parce que quand j'ai quitté le pays en 2005, c'était un institut supérieur. Alors, c'est une université qui a été créée en 1992, mais qui s'est mutée en 2010 en université, en grandissant. Et donc, le nom était... J'ai dit, mais c'est quoi l'université Aube Nouvelle? Moi, j'ai dit, non, c'est l'ISIC. J'ai dit, ah! J'ai dit, c'est une université? Oui, parce qu'ils se sont mutés. Et au sein du CAMES, qui est le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur, il y a des exigences pour les universités en termes de capacité d'accueil, mais aussi en termes d'enseignants-chercheurs permanents qui sont obligés d'avoir quand même un minimum de permanents. Donc, ils ont le besoin. Je dis, OK, est-ce que donc ça veut dire qu'on peut progresser au CAMES en tant qu'universitaire là-bas? Ils m'ont dit, oui, pour ça, ne t'en fais pas. Et donc, un de mes amis m'a accompagné. On allait demander rendez-vous, j'ai été reçu. Et bon, il y avait vraiment de l'enthousiasme parce qu'effectivement, ils en avaient besoin. Ils offraient des formations en communication avec des filières, mais il n'y avait pas de permanent. C'est des gens qui occupaient ponctuellement le poste de responsable de programme, mais qui venaient d'une autre université. Ils ont dit, s'ils ont quelqu'un sur place, ça les aiderait. Mais bon, étant en avril-mai, ils ne peuvent pas recruter quelqu'un comme ça, il faut la rentrée. Et que ne nous connaissant pas, ils vont m'inviter pour une mission d'enseignement à la rentrée, pour un mois. Et si c'est concluant, ben, je signerai un CDI. J'ai dit, OK, parfait, il n'y a pas de problème. J'ai de l'expérience d'enseignement, je ne crois pas que ce soit ça le problème. En plus, j'ai fait une faculté d'éducation, donc pour apprendre la pédagogie, donc voilà. Et je suis revenu. Et en rentrant, bon, j'étais quand même prudent parce que je continuais à chercher. Alors, donc, j'ai candidaté au Niger, à l'Université des Indes, j'ai candidaté au Sénégal, à l'Université Gaston Berger, parce que dans mon entourage, il y a des gens avec qui j'ai passé la vie universitaire à Grenoble et qui sont universitaires dans ces universités et qui m'ont dit, nous, on a des besoins. Et ça fait qu'en septembre, au Niger, ils m'ont envoyé une offre d'emploi. Et ils mettaient la pression et j'ai dit, bon, OK, dans 5-6 mois, j'aurai le statut de Canadien, je peux rentrer chez moi pour revenir quand je veux et aller où je veux, plus simplement. Mais là, il vaut mieux que je rentre directement au Burkina que d'aller encore ailleurs. Et j'ai relancé l'université Aube Nouvelle, on était en octobre, et c'était tendu parce que l'année 2014 était une année de révolte au Burkina. On avait un président, Blaise Compaoré, qui venait de faire 27 ans de pouvoir, après avoir modifié la constitution plusieurs fois, et voulait encore le refaire. Et là, les gens ont dit non. Et 2014, octobre, c'était des marches tout le temps. Donc, le pays était bloqué. Alors, j'ai pas eu de réponse jusqu'à ce que le président parte en exil. Et c'est après ça que l'université m'a répondu, m'a dit, bon, tu suis l'actualité, tu vois, et on n'était pas dans l'esprit de travailler vraiment, parce que le pays était dans, voilà, sens du sous, comme on dit au Québec. Et ils m'ont invité, donc je suis allé en novembre, et j'ai fait un mois et demi, ça s'est bien passé, et j'ai signé un contrat de CDI pour prendre fonction le 1er mars 2015. Donc ça fait 10 ans cette année que je suis universitaire, pas au Canada, pas en France, mais j'ai trouvé, pour répondre à votre question, ce que je voulais, parce que pour moi, ce n'était pas seulement de travailler et d'avoir de l'argent, parce que honnêtement, si vous êtes enseignant au Canada, vous êtes bien payé. Ça, je vous assure, peu importe que ce soit le primaire, le secondaire ou le supérieur, si c'est le salaire, oui, mais j'avais cette satisfaction que je voudrais avoir en permanence en me disant je suis utile, je fais le métier que j'aime et ce métier je l'aime et j'ai parcouru du chemin, je me suis battu pour y arriver et je l'ai trouvé à l'université Aube Nouvelle. Thank you.
Merci Évariste de nous avoir raconté ce cheminement à l'international, à la recherche d'un poste d'enseignement et de recherche à l'université. Et on en a quelques soupçons dans le récit que tu viens de nous livrer, mais que gardes-tu aujourd'hui de ce cheminement à l'international dans la manière d'envisager ton activité professionnelle?
Alors, je garde un réseau international vraiment fort et enrichissant pour moi. Et je vous disais tantôt que, par exemple, à Agadir, quand j'étais en 2012, j'ai rencontré des gens du Sénégal, des Sénégalais vivant au Sénégal et des Sénégalais de l'étranger. Certains étaient à Montréal avec moi, d'autres étaient à Trois-Rivières ou à Sudbury. Et j'ai rencontré des Français qui venaient de Rennes et autres. Et ça fait que quand j'étais à Montréal, j'ai passé beaucoup de temps à l'UQAM. Je n'ai pas eu de poste là-bas, mais j'ai participé à beaucoup d'activités et de séminaires. Et donc, j'ai un réseau assez dense. Et depuis 6-7 ans, je fais partie de la chaire UNESCO en communication et technologie de l'UQAM. Et ça, c'est parce que j'ai vécu là-bas, on s'est connus, et même beaucoup m'ont donné des conseils en son temps. Et ce n'est pas rien. Et je suis resté en contact avec un collègue qui est à l'Université de Laval d'origine béninoise et avec qui on a des collaborations fort enrichissantes. Et c'est une expérience importante. Et justement, d'avoir un passeport aussi qui me permet plus facilement de bouger est quelque chose d'important. Et il n'y a pas longtemps, j'étais invité par la chaire UNESCO, cette fois-ci à Montréal. En 2023, il y a 2 ans, où il y avait effectivement l'ACFAS. Et dans le cadre de l'ACFAS, je communiquais et on a profité, travailler sur certains projets avec des collègues de la chaire UNESCO. Donc, il faut dire que je garde quand même un réseau important qui s'étale de l'Afrique à l'Amérique du Nord en passant par la France. Voilà.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu enseignes à l'université et qu'est-ce qui te plaît dans cette activité ?
Alors, moi, j'enseigne essentiellement des matières en communication sociale, beaucoup de matières en communication sociale, aussi un certain nombre de volets au niveau de la publicité, mais toujours orientés dans le social. Et il faut dire que pour avoir fait une faculté d'éducation, j'ai une pédagogie, bon, en tout cas, je ne sais pas pour s'en vanter, mais en tout cas qui convient, qui me permet d'avoir une certaine proximité avec les étudiants. Et bon, j'ai la chance aussi que les effectifs ne sont pas toujours très, très, très élevés. C'est souvent une centaine d'étudiants quand c'est beaucoup, 100-120. Sinon, c'est un peu moins que ça. Et donc, ça fait que, en général, quand je suis en classe et que j'aborde des concepts ou des aspects nouveaux, il y a toujours des travaux dirigés. En fait, je prends les contenus du cours, je les décompose en ce que j'appelle des exercices de mise en situation. Je pose des questions où les étudiants sont réunis par équipe de 2, de 3 ou de 4 pour d'abord réfléchir entre eux. Et s'il y a lieu, ils ont le droit d'utiliser leur téléphone pour faire des recherches parce que je ne l'interdis pas ça. Je leur dis, vous savez, moi je vous fais confiance. Je vous responsabilise. Je te donne ton téléphone pour que tu travailles avec parce que c'est nécessaire et je pense qu'aujourd'hui, Internet permet de pousser plus loin. Mais si je ne te donne pas le téléphone pour que tu regardes les statuts Facebook ou WhatsApp de tes amis, bon, souvent, ils comprennent. Ils comprennent parce qu'il faut se dire, hein, ce n'est pas facile quand les étudiants ont leur téléphone, la distraction est assez là. Mais quand on les touche d'une certaine façon, ils comprennent que là, bon, la personne te respecte, il faut mériter ce respect. Et donc, ça permet aux étudiants de discuter d'abord, ensuite on corrige, et après, quand je repasse sur les slides, ça devient comme un renforcement pour certains points du cours. Et ça crée qu'il y a beaucoup d'échanges et de discussions entre les étudiants et moi pendant les cours. Et ça permet aussi d'en apprendre d'eux, parce qu'aujourd'hui, vous savez, hein, on apprend aussi des étudiants. Donc, et ça, c'est quelque chose que j'aime. Et ça fait que les étudiants, beaucoup veulent, par exemple, que je les encadre. Bon, beaucoup sont en licence, mais depuis 3 ans, je n'encadre plus les licences qui font des rapports de stage. J'encadre des masters. et des doctorats. Parce que, ben, comme je le disais tantôt, j'avais pour ambition d'évoluer dans la carrière. Et l'Université Aube Nouvelle m'a donné cette possibilité, puisqu'on est recruté comme assistant. Bon, ce système n'est plus de vigueur en France, mais c'est comme ça chez nous. Ensuite, il faut aller au CAMES, il y a trois grades. Il y a maître assistant, maître de conférence, c'est eux qui sont habilités à diriger des thèses et autres, et postier titulaire. Et donc, en 2011, en 2017, je suis passé maître assistant. En 2021, maître de conférence. Et quand on est maître de conférence, on doit encadrer des doctorants. Ça fait partie des obligations. Et ça fait que, progressivement, j'ai laissé les licences de côté parce que bon, c'est les plus nombreux. Et bon, c'est les plus en besoin, c'est vrai, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, ça fait que souvent, ils viennent me voir, je leur dis, bah, écoutez, bon, vous êtes arrivé un peu tard, mais voilà. Et malheureusement, je suis avec vos aînés, voilà, les masters et les doctorants maintenant. En tout cas, j'ai de bons rapports avec les étudiants dans l'ensemble.
Merci Évariste. Et quels sont tes intérêts de recherche aujourd'hui et d'où te viennent-ils ?
Alors, de manière permanente, j'ai un centre d'intérêt pour tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, c'est-à-dire le numérique à travers les usages d'Internet, les changements sociaux qu'Internet peut engendrer dans différents domaines comme le cinéma, comme même l'animation des débats politiques et publics, etc. Et donc, travailler sur le numérique a toujours été quelque chose de transversal, même si actuellement, ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, ce sont les impacts que le numérique a eu sur certaines filières cinématographiques en Afrique de l'Ouest et au Burkina Faso. Quels ont été les apports, par exemple, du numérique dans le segment de la distribution ou de la production, et comment se développent les plateformes de films au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. D'abord en termes d'accès des plateformes mondiales, comme Netflix et autres, et aussi des plateformes locales. Donc ça, c'est des choses auxquelles je me suis intéressé au fur et à mesure, parce qu'il y a des faits de la société qui se présentent aussi. Et il faut dire qu'au fur et à mesure, je me suis aussi intéressé aux migrations, parce que bon, pour moi, la recherche, c'est aussi faire en sorte de saisir des événements sociaux quelque part en cours ou qui nous interrogent. Et donc, actuellement, je travaille aussi sur les discours que la trajectoire de migration entraîne, depuis les imaginaires dans les pays d'origine, ce que c'est dit pour les migrants, pour ceux qui ont des projets de départ, mais aussi leur entourage, mais aussi des discours à travers toute la traversée et toute la complexité qu'il peut y avoir dans les pays de transit, et aussi ben, à l'arrivée dans les pays d'accueil, parfois dans des moments difficiles pour avoir traversé, et ben, comment l'altérité se vit, le regard envers l'autre, et puis bon, quels sont les discours sur l'immigration aussi dans ces pays. Donc ça aussi, ce sont des centres d'intérêt pour moi actuellement.
Merci Évariste. Et tu nous as dit à plusieurs reprises aussi que tu t'intéresses à la communication sociale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est que la communication sociale et plus particulièrement sur le terrain burkinabé ?
Ok. Alors, la communication sociale, chez nous, on appelle ça communication pour le développement. Bon. Et dans d'autres pays, c'est de la communication sociale ou... Ici, en France, ça s'apparenterait à la communication publique sur des campagnes de sensibilisation et d'autres choses. Au Burkina Faso, la communication accompagne un certain nombre de projets locaux de développement. Par exemple, si vous voulez amener les gens à adopter des moustiquaires imprégnés pour lutter contre le paludisme, dormir sous moustiquaires imprégnés, parfois il y a des réticences. Certaines personnes vous disent les moustiquaires, en fait, ça nous donne des démangeaisons puisque c'est imprégné. Bon, d'autres personnes n'en trouvent pas l'intérêt. Il y a des endroits où, dans certains villages, on a donné des moustiquaires aux gens et ils utilisent les filets pour faire de la pêche. Et donc, il y a un travail à faire pour les amener à prendre conscience de l'utilité de ça et de changer de comportement pour limiter d'abord les maladies et les conséquences des maladies. Et en dehors de ça, par moment, il y a des projets d'adduction d'eau potable dans certaines localités. Et vous pouvez avoir besoin de faire cela. Et si vous n'impliquez pas la communauté, l'identification même du lieu pour le forage se pose. Dans nos pays, les pratiques traditionnelles animistes sont encore très fortes. Les gens ont des zones sacrées. Et si vous venez avec des ingénieurs hydrauliques et qui ne font que sonder et vous disent que là, le sondage est positif et que vous pouvez faire un puits là-bas, il y a des endroits où on a fait des puits, les gens ne buvaient pas l'eau parce qu'on a désacralisé un lieu. Et il y a une approche particulière anthropologique qu'il faut prendre en compte en plus des connaissances des communautés pour pouvoir lutter contre un certain nombre de choses. Si je prends l'exemple aussi de l'excision, l'excision, certaines personnes présentent l'excision comme quelque chose que la religion recommande. Non, c'est traditionnel. Et il y a des états d'esprit que les gens ont par rapport à ça. Et il y a une manière d'aborder la lutte contre la pratique de l'excision et la communication sociale incorpore des connaissances locales traditionnelles pour ça. Quand on prend des choses qui arrivent comme les conflits éleveurs-agriculteurs, et c'est fréquent. Parce que il y a de moins en moins de zones de pâturage, il y a l'agriculture extensive et ça crée des conflits. Mais on a des savoirs endogènes, la parenté en plaisanterie, le rôle social de certaines personnes dans les milieux traditionnels qui peuvent être associées en tant que médiateurs pour aider une commune, pour aider une préfecture à résoudre un certain nombre. Mais c'est parce qu'on a créé de la place à quelque chose pour lequel les gens dans les villages accordent de l'importance et parfois plus d'importance que ce qui relève de l'administration moderne. Voilà. Donc, la communication sociale, pour certains aspects, c'est pour le volet rural, c'est comment incorporer parfois des connaissances endogènes sur des interventions sociales. Mais c'est aussi des campagnes de sensibilisation contre l'incivisme routier. C'est des campagnes pour lutter contre la drogue en milieu scolaire. Et il y a des manières de faire dans ce sens. Donc, ce sont des thématiques pour lesquelles je travaille et j'enseigne beaucoup dans ces domaines.
Merci pour ces exemples, Évariste. Tu as parlé de parenté à plaisanterie. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, la parenté à plaisanterie, c'est des joutes oratoires où on se fait la guerre verbalement pour ne pas se faire la guerre au sens propre, comme on le dit. Il y a des ethnies qui sont identifiées comme parents en plaisanterie, où on se provoque, on s'insulte, on se charrie, mais c'est des choses qui sont connues et que l'on montre aux enfants dès le bas âge, pour qu'ils sachent que, si telle personne relevant de telle ethnie a tel comportement, il faut le comprendre dans tel sens, parce que ça a été codifié dans la société comme ça, pour qu'il y ait une façon de réguler le vivre ensemble. Parce que souvent, c'est des gens qui, dans l'histoire, ont eu par moments des prises de bec, des conflits, et des choses se sont créées pour pouvoir réguler ces questions-là. Donc, c'est des gens qui se provoquent, mais dans le sens de l'amusement. Bon, si vous supprimez un Mossi, comme moi, et un Samo, dans le métro à Grenoble, dans le métro à Paris ou le tram à Grenoble, en train de se charrier, vous allez croire qu'ils sont en train de faire de la bagarre. Non. Évidemment, le contexte étant différent, ils éviteront de le faire en public, mais ça arrive que chez nous, des gens se charrient comme ça et on le comprend. Ça fait qu'à un moment donné, quand vous êtes en conflit, il y a des ressorts traditionnels que l'on peut activer pour aider à résoudre certaines choses. Ça ne veut pas dire que ça réussit tout le temps, mais les gens sont quand même sensibles à certaines situations.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur tes intérêts de recherche, Évariste. Je me demandais si tu pouvais nous dire à quoi ressemble aujourd'hui la vie universitaire à Ouagadougou. Tu disais que quand tu y étais étudiant, il n'y avait qu'une seule université. Aujourd'hui, vraisemblablement, il y en a plusieurs. À quoi ressemblent ces campus aujourd'hui à Ouagadougou ?
Ok. Alors, c'est vrai qu'en termes d'université publique, par exemple, il n'y avait que ce qu'on appelait l'université de Ouagadougou, plus quelques établissements d'enseignement supérieur privé. dont l'Institut supérieur d'enseignement, l'Institut supérieur d'informatique et de gestion, l'ISIC, qui est devenu même université aux nouvelles où je suis. Donc, c'est pour dire que ce soit du côté public que privé, ben, les campus se sont multipliés. Côté public, par exemple, l'Université de Ouagadougou a été scindée en deux. Et il y a un qui est l'Université Joseph Kizerbo qui reste le plus gros, c'est la base historique, plus l'Université Thomas Sankara. À côté de ça, il y a une école polytechnique, école supérieure qui a été créée, et l'université virtuelle qui reste publique. Donc il y a quatre grands pôles. Sur le privé, sans compter les écoles supérieures, puisque les statuts ne sont pas les mêmes. Être université, c'est avoir, c'est former déjà dans différents domaines qui ne relèvent pas du même champ. Par exemple, on peut parler du champ des sciences exactes, physiques et autres. On peut parler du champ des sciences sociales et autres, des gestions. Donc, une université chez nous, sur le plan légal, doit répondre à un certain nombre de critères en termes d'offres de formation. Généralement, c'est plus gros. Et même au niveau du public, ça s'est aussi accru, du privé, ça s'est aussi accru. Et pourquoi ? Ben, parce que la population ouagadougienne s'accroît, la demande est forte, et donc il faut décongestionner les établissements pour que les gens ne se retrouvent pas à des milliers d'étudiants dans des amphis. Ça devient compliqué pour suivre. En notre temps, on était moins nombreux. Aujourd'hui, bon, il y a quand même dans les universités publiques nettement plus d'étudiants qu'à notre époque.
Merci pour tous ces éléments d'information, Évariste. Aujourd'hui, nous enregistrons cette émission à Radio Campus Grenoble. Puisqu'il y a plusieurs campus à Ouagadougou, quelles y sont les radios étudiantes ?
Alors, à Ouagadougou, il y a deux radios campus. Il y a la radio campus de l'Université Joseph Kizerbo, du département d'où je viens comme étudiant. Il y a une radio campus là-bas. Et il y a Radio Campus ISTIC. L'ISTIC, c'est l'Institut supérieur de technologie et de l'information et de la communication, qui est une entité du ministère en charge de la communication qui forme des journalistes ou qui renvoie des journalistes en recyclage. Et aussi, ils ont un studio radio et même une web télé.
D'accord. Donc, nous pouvons aller les rechercher en ligne pour écouter les productions des camarades burkinabés. Et puis, nous arrivons à une dernière question, Évariste. Tu retournes bientôt au Burkina Faso après près de 2 mois à Grenoble en tant que chercheur invité de la chaire UNESCO en communication internationale. Est-ce qu'il y a un moment particulier de ce nouveau séjour à Grenoble que tu voudrais nous partager avant qu'on se quitte ?
Alors oui, il y a quelques semaines, je me suis retrouvé avec des promotionnaires doctorants à Grenoble, avec lesquels j'ai fait la thèse à Grenoble, certains de la même promotion, d'autres d'une année avant, à Bourgoin-Jallieu. Et c'était un moment assez sympathique parce que nous sommes tous devenus des universitaires. Ceux que je côtoyais régulièrement au labo sont aussi universitaires, soit à Lyon, soit à Grenoble. Et c'était un moment de partage fort intéressant. Et c'est signe aussi que je garde de bons rapports et de bons attaches avec ces personnes-là. Et souvent, c'est dans des moments de discussion informelle également qu'on discute par moment. C'est difficile de ne pas parler de recherche et d'autres aspects. En passant, là, je suis à Grenoble, mais il y a 4 ans, j'étais invité à Lyon comme professeur invité. Et c'est aussi dans le cadre des relations que je garde avec des gens qui sont dans le milieu universitaire. Et ça rejoint ce que je disais tantôt, ce parcours à l'international m'a permis vraiment de tisser un réseau de chercheurs, un réseau aussi d'amitié important. Et c'était un bon souvenir de retrouver des amis avec lesquels on a passé 3-4 ans ensemble lorsque nous étions doctorants.
Merci de partager ce moment avec nous, Évariste, et plaisir partagé d'avoir retrouvé... Je peux le dire aussi, mes camarades de thèse lors de cette soirée entre amis et collègues. Voilà. Merci beaucoup pour ce moment d'échange aujourd'hui, Évariste Dakouré. Rendez-vous lors d'un prochain épisode pour voyager vers un autre campus à l'étranger avec notre chercheuse ou chercheur invité de la chaire UNESCO. Merci et bonne journée.
Merci.